Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, ça bouge dans la City, le quartier des affaires de Londres. On aurait presque envie de dire ça déménage. Les institutions commencent à se pencher sur leur passé esclavagiste et à bouger ou à se séparer de statues encombrantes. Que doit la richesse actuelle de la City à la traite négrière et comment en parler, comment réparer? C'est tout un débat qui s'est engagé de manière très concrète de l'autre côté de la Manche. Reportage dans les rues de la City, signé Marie Billon.
Sur le chemin pour rejoindre le point de départ du tour intitulé « L'esclavage et la City », nous passons devant le Guild of Cain, dans une petite allée piétonne. C'est un mémorial composé de plusieurs colonnes de granit devant une estrade faite de la même pierre. Une scène figée qui rappelle un marché aux esclaves ou bien une foule écoutant un orateur. Ce monument a été inauguré en 2008 pour commémorer les 200 ans de l'abolition du trafic d'esclaves. C'est la seule trace ostensible des liens de la City avec l'esclavage. Pourtant, le passé du quartier financier est rempli de très nombreux fantômes. Nous rejoignons donc Courtney Plank, la guide du tour Slavery and the City, à quelques centaines de mètres.
Nous sommes devant Guildhall, la mairie, donc l'âme civique et cérémonielle de la City. L'une de ses responsabilités auparavant était de rendre la justice. Il y a une plaque à l'entrée qui liste les procès qui se sont tenus ici, mais il en manque un, c'est le procès du massacre du Zong.
Ce navire britannique transportait près de 200 esclaves récemment kidnappés, mais le capitaine se rend compte, ou bien semble être persuadé, qu'il va manquer d'eau potable. Il décide de jeter 142 esclaves par-dessus bord, car son assurance prévoit le jet à la mer de marchandises, les esclaves étant considérés comme tels dans des circonstances critiques pour le navire et son équipage. Une fois à terre, le capitaine dépose sa requête auprès de son assurance, mais cela ressemble trop à un meurtre de masse, d'où le procès au Guildhall, qui sera un procès pour fraude à l'assurance, pas pour meurtre. Le verdict est en faveur du capitaine du bateau. Un appel est déposé par les assureurs, mais semble n'avoir jamais été poursuivi.
L'autre raison pour laquelle nous nous intéressons au Guildhall, c'est à cause d'une statue qui est controversée, celle de William Beckford. Il a été Lord Maire de la City de Londres et député, mais il était aussi le propriétaire de 3000 esclaves en Jamaïque. L'an dernier, la City a lancé une consultation publique sur la gestion de ses liens avec l'esclavage. Elle s'est conclue en novembre et elle recommande de déplacer la statue. La mairie l'a acceptée, la question est maintenant de savoir où la déménager.
Angela s'est intéressée à ce tour parce qu'elle vit à moins de 2 km de la City et s'est rendue compte qu'elle ne connaissait que très peu l'histoire de Londres et surtout, elle a beaucoup suivi le débat sur les statues.
Alors ça nous touche parce qu'il y a tout un débat, si ou non il faut garder ces statues avec une explication. Et les gens posent la question, on finit où? On peut enlever une statue comme ça, mais il y a beaucoup de bâtiments qui sont liés à l'esclavage et ça finit où? Et c'est une question que je pose, quoi. J'essaie de rester un peu ouverte.
C'est vrai qu'il y a des demeures très cossues qui ont pu être construites ou acquises dans la City grâce à l'argent que ses propriétaires ont gagné grâce aux plantations. Courtney en montre quelques-unes et pointe aussi les locaux historiques de la guilde des négociants en tissu dont faisait partie Edward Colston, dont la statue a été jetée à l'eau à Bristol à l'été 2020. Il a beaucoup investi dans la ville, mais grâce à de l'argent gagné avec le commerce d'esclaves. Il y a aussi d'autres bâtiments dans la City qui sont liés à l'histoire de l'esclavage et de son abolition.
Je veux vous parler de ce qui s'est passé derrière cette grille. Il n'y a plus rien à voir aujourd'hui, mais avant, il y avait une maison. Beaucoup de gens s'y sont réunis pendant une longue période. C'est là qu'ils ont créé et géré la Société pour l'abolition du trafic d'esclaves. En 20 ans, ils ont réalisé leur objectif.
C'est sur la place de la Banque d'Angleterre que nous quittons Courtney. Du doigt, elle pointe les décorations du frontispice du Royal Exchange, jadis lieu de négoce, aujourd'hui centre commercial de luxe.
Regardez la quatrième personne en partant de la droite. C'est un homme noir à genoux. Ce bâtiment a été inauguré en 1844 par la reine Victoria, 11 ans après l'abolition. Représenter un homme noir à genoux, ça n'a aucun sens. Ça montre la manière dont on voulait voir les personnes de couleur.
C'est la seule représentation d'un homme noir dans la City de Londres, à part dans une petite église. Nous allons maintenant un peu plus au nord, dans le quartier de la City, à Moorgate, pour rencontrer Paolo Volpin, directeur d'une école de commerce. Elle s'appelait la Cass Business School jusqu'à il y a quelques mois, quand elle est devenue la Base Business School.
Tout a commencé en juin 2020. Avec le mouvement Black Lives Matter, on a réalisé que certains individus étaient honorés par des statues ou avec leur nom attachés à des institutions, alors qu'ils étaient impliqués dans le trafic d'esclaves. L'un d'eux était Sir John Cass.
L'école avait été baptisée Cass Business School en 2001 après une donation faite par la fondation Sir John Cass. Aucune recherche sur le passé de cet homme n'avait été effectuée à l'époque, ni jusqu'en 2020, avoue Paolo Volpin. Mais dès que cette problématique a fait la une, l'école a lancé une consultation pour trouver un nouveau nom.
Nous sommes tombés d'accord sur Bayes. Thomas Bayes est né à Londres, il est enterré non loin d'ici. Il est l'auteur d'un théorème des probabilités. Sa contribution à la discipline des statistiques est fondamentale dans tout ce que nous enseignons ici. Nous avons aussi fait très attention. Nous ne connaissions pas ses valeurs. Nous savions que c'était un homme de science et un homme d'église, mais nous avons interrogé les historiens qui ont travaillé sur lui et nous n'avons rien repéré de problématique.
Des changements et des recherches qui ont un coût mais qui sont nécessaires, dit Paolo Volpin. Certaines grandes institutions comme la Banque d'Angleterre ont pour leur part embauché des historiens pour passer leur passé au peigne fin. La Bank of England a même déjà commencé à déplacer certains bustes de son siège. Ils sont devenus trop gênants. And now they beat us.
And how they work us so hard. Et aux Pays-Bas, l'un des derniers pays européens à avoir aboli l'esclavage, c'était en 1863. Ce sont aussi les villes qui sont à l'origine de cette révolution mémorielle. Utrecht et Amsterdam ont voulu notamment présenter des excuses officielles, Antoine Moutot.
Il est temps d'emmurer la grande injustice de l'esclavage colonial dans l'identité de notre ville. Ces mots se sont prononcés en juillet dernier par la maire écologiste d'Amsterdam, Femke Halsema. Lors d'une cérémonie annuelle en mémoire des victimes de la traite négrière, elle a présenté des excuses officielles au nom de la capitale néerlandaise. Cela faisait déjà 2 ans que le conseil municipal d'Amsterdam s'était prononcé en faveur d'une telle reconnaissance du rôle de la ville dans le commerce triangulaire, mais la mairie avait dans un premier temps attendu les résultats d'une étude sur le sujet. Selon cette dernière, la ville d'Amsterdam a bel et bien été impliquée à grande échelle et sur la durée dans la traite transatlantique des esclaves. Pendant la période de l'esclavage, plusieurs gouverneurs d'Amsterdam de l'époque étaient directement liés aux fameuses compagnies néerlandaises des Indes orientales et des Indes occidentales. Et surtout au XVIIIe siècle, une partie de l'essor de la capitale est due à l'esclavage. Maintenant que la ville d'Amsterdam a officiellement reconnu son passé esclavagiste, un conseil consultatif mandaté par le gouvernement néerlandais s'est récemment prononcé pour des excuses officielles de l'État, mais le Premier ministre Mark Rutte et sa formation de droite libérale y sont encore opposés. Selon eux, des excuses nationales seraient de nature à diviser la société néerlandaise. En attendant, d'autres villes comme Rotterdam envisagent de suivre l'exemple d'Amsterdam, et ailleurs, certaines initiatives ont vu le jour pour alléger les démarches de descendants d'esclaves qui souhaiteraient changer de nom, car celui de leurs ancêtres était souvent construit à partir de celui de leur propriétaire. Ainsi, quand une personne s'appelle Friste, il y a de fortes chances que l'un de ses aïeux ait été l'esclave d'un néerlandais du nom de De Vries. Aux Pays-Bas, un changement de nom coûte en moyenne plus de 800 €. À Utrecht, la mairie s'est donc récemment engagée à rendre gratuits ses frais d'état civil pour les descendants d'esclaves.
Io sono Abdullahi Ahmed.
On vote aujourd'hui en Italie. 12 millions d'électeurs sont invités à aller choisir depuis hier leur maire dans plus de 1100 communes. Et à Turin, la grande ville industrielle du nord de l'Italie, un des candidats, tête de liste du Parti démocrate, se démarque. Ahmed Abdullahi est un réfugié somalien qui est arrivé en Italie en 2007, Cécile Debarge.
Il y a 14 ans, Ahmed Abdullahi mettait le pied pour la première fois en Italie, fuyant la Somalie après un long et dangereux voyage. Il y a 5 ans, il obtenait la citoyenneté italienne et il y a quelques mois à peine, il lançait sa carrière en politique en devenant l'un des candidats au conseil municipal de Turin sur la liste du Parti démocrate. S'il fallait résumer l'engagement citoyen qui a été le sien en cours de ses près de 15 ans, et alors qu'il en a à peine 33, on pourrait choisir sans hésiter le titre de son autobiographie, « Lo sguardo avanti, regarder vers l'avenir ». Pas question pour lui de s'attarder sur son passé, l'essentiel est de construire des ponts entre son pays d'accueil et les populations migrantes. Médiateur culturel pour la Croix-Rouge, il a également participé à la création du Festival de l'Europe et de la Méditerranée et a cofondé l'association Génération Pont, dont l'objectif est d'établir un dialogue entre Italiens et jeunes étrangers ou d'origine étrangère vivant en Italie. Un engagement qui lui a valu le prix Altiero Spinelli en 2020, décerné par la Commission européenne. Si son parcours est exemplaire, le choix de sa nomination est aussi un signal politique important de la part du Parti démocrate. Comme l'a observé le quotidien La Stampa dans ses colonnes du dimanche 26 septembre, si Turin est l'une des villes les plus multiethniques du pays, seuls 4% des plus de 1000 candidats présentés par les 13 listes concurrentes sont d'origine étrangère, alors qu'ils représentent près de 15% des résidents de la ville.
L'Europe politique est-elle en train de vivre à l'heure des coalitions? En Allemagne, les discussions politiques vont bon train pour former une coalition à trois. En Italie, tous les partis ou presque sont au pouvoir derrière Mario Draghi. Sans même parler de la Belgique, royaume passé maître dans l'art des coalitions. Mais peut-on vraiment gouverner de cette manière? La question se pose d'abord en Allemagne. C'est la chronique de Franceline Beretti.
La presse parle d'une coalition feu tricolore, vert jaune rouge. L'image est moche, mais c'est toujours mieux que la coalition des conservateurs et des sociaux-démocrates. Grosse coalition, ou GroKo. GroKo. Les discussions sur l'Allemagne me rappellent la vie politique belge et ses improbables noms de coalition. On a eu la suédoise pour le jaune des indépendantistes flamands et le bleu des libéraux, la jamaïcaine, noir-jaune-vert, l'olivier, l'arc-en-ciel, et maintenant, la coalition Vivaldi. Le lien avec le compositeur italien? L'alliance gouvernementale est formée de quatre tendances politiques, comme les quatre saisons. C'est laborieux, hein, comme explication. Et puis comme il y a sept partis au pouvoir, on aurait aussi bien pu l'appeler la coalition Blanche-Neige. L'Allemagne s'avance donc vers un feu tricolore. C'est bien, non? Je veux dire, une coalition. N'est-ce pas la vraie démocratie? Des gens aux idées opposées, contraints à s'entendre, à trouver des compromis. Dans la vraie vie, c'est comme ça aussi, on cohabite. C'est aussi une affaire de culture politique. En Allemagne, le débat public est moins clivé qu'en France, il doit être courtois, respectueux. D'ailleurs, le vice-président des Verts allemands, Robert Habeck, n'a aucun problème à discuter avec tout le monde. Le soir des résultats, le journaliste de la télévision publique lui demande s'il pourrait gouverner avec la CDU.
Je ne peux pas répondre par oui ou par non et je ne le veux pas. La réponse dépend d'une chose. Ce gouvernement répondra-t-il aux défis actuels? C'est ça la tâche de Scholz ou de Laschet. Celui qui deviendra chancelier sera celui avec l'alliance la plus progressive et innovante.
On se parle. C'est aussi encouragé par les institutions européennes. L'union, c'est le dialogue et le compromis. Comment faire autrement? Sauf que cette multiplication des partis au sein de l'exécutif peut être vue comme un affaiblissement de la démocratie. Le gouvernement y perd en lisibilité. Divisé entre des positions politiques incompatibles, il devient instable, fragile. Reprenons la Belgique, où non seulement gauche et droite doivent s'entendre, mais où chaque parti ou presque est en fait deux partis. Version flamande, version francophone. Ça donne des casse-têtes après chaque élection. En août 2020, par exemple, trois mois après le vote, toujours pas de gouvernement, l'éditorialiste de la radio publique belge tente d'expliquer pourquoi.
On ne peut plus dire que le PS et la NVA, ça ne marche pas. On peut dire que les Verts et les Bleus ne veulent pas que le PS et la NVA, ça marche. Désormais, l'OpenVLD, son président, Egbert Lacarte, se retrouve tout seul, comme un grand, à devoir faire ce qu'il a défait. Il a défait une majorité PS-NVA, mais il a aussi défait une majorité sans la NVA, en torpillant d'ailleurs sa présidente à l'époque, Gwendoline Rutten.
Vous n'avez rien compris. C'est normal, vous ne connaissez pas la politique belge, me direz-vous. Mais même ceux qui la connaissent ont des migraines à chaque tractation électorale. La Belgique, c'est un peu la mauvaise face de la médaille des coalitions de très longues tractations, des gouvernements à la merci de tout petit parti, des compromis auxquels personne ne comprend rien. Du coup, les citoyens ne réagissent même plus à l'absence de gouvernement quand les partis, six mois après le vote, négocient encore.
Depuis le temps, c'est un peu surréaliste. Dans le sens qu'on continue à vivre comme si rien ne se passait, il y a du Péquer Liège, le Standard.
Je crois que c'est un peu comme un processus de deuil. Tu vois, quand tu as du deuil, quelque chose est arrivé, la première chose que tu penses, que c'est pas juste et tu te mets en colère. Et puis, mais par après, il y a une forme d'apathie qui rentre. On s'adapte à la situation et puis on reste apathique.
Ça ne fait pas rêver. Les coalitions ne concernent pas que la Belgique ou l'Allemagne. Regardez l'Italie. Tout le monde gouverne avec tout le monde dans le gouvernement Draghi. L'extrême droite de Matteo Salvini avec les partisans des portes ouvertes. Même le mouvement 5 étoiles, parti anti-système, fait figure de toutou docile. Il n'y a que les néo-fascistes dans l'opposition. Et ça n'est pas forcément bon pour la suite. Dans une coalition donc, on peut voir une démocratie apaisée ou du grand n'importe quoi. On jugera au cas par cas. I have something to tell you.
Il a écrit Henry Kissinger, l'Européen chez Gallimard, un ouvrage qui explore la réelle politique pas toujours bien comprise de l'ancien chef de la diplomatie américaine sous Nixon. Jérémy Gallon est donc bien placé pour comprendre les relations complexes entre l'Europe et les États-Unis. Il était l'invité de Carrefour de l'Europe dimanche dernier et il nous dit pourquoi l'Europe doit toujours rester présente dans l'Indo-Pacifique.
Moi, j'ai 36 ans, je me résoudrai jamais à ce que l'Europe soit simplement à la périphérie du monde. Je veux que l'Europe soit l'acteur du monde de demain. Il n'y a pas une région indo-pacifique qui, par définition, serait le centre du monde au XXIe siècle. Nous avons tous les atouts en Europe, en termes de talent, de diversité, d'histoire. Nous sommes une civilisation européenne pour être le centre du monde. Ensuite, néanmoins, il y a un basculement clair aujourd'hui vers l'Indo-Pacifique. Il faut qu'on y soit plus présent sur le plan économique, mais aussi sur le plan stratégique, parce que c'est notre intérêt et c'est notre indépendance qui s'y joue demain.
Quid des relations futures avec l'Australie? On sait qu'il y a un accord de libre-échange qui est en train d'être négocié entre l'Europe et l'Australie. Ça paraît mal parti aujourd'hui?
Je pense qu'il y a des tensions. L'Australie doit demeurer un partenaire à terme pour l'Europe, tout simplement parce que sur la question du renseignement, dans l'Indo-Pacifique, on a quand même des intérêts communs. Donc, il faut qu'on travaille plus ensemble. Néanmoins, il y a une confiance qui va mettre du temps à être restaurée. Mais il faut faire attention toujours en diplomatie de jamais s'enfermer dans l'amertume. Ça ne produit jamais de résultats positifs. Il faut donc construire quelque chose ensemble. Peut-être pas à court terme un traité de libre-échange, mais au moins développer notre coopération.
Est-ce que l'Australie a bien joué finalement dans ce contrat d'alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni, alors que se tient très bientôt ce scrutin pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, cet archipel français qui est juste à l'est de l'Australie et qui est d'une importance stratégique énorme pour l'Australie aujourd'hui?
Absolument, je pense qu'il est absolument nécessaire pour l'Australie de renforcer à la fois ses relations évidemment avec les États-Unis, qui est une superpuissance qui pèse énormément dans l'Indo-Pacifique et qui peut lui assurer une forme de sécurité dans la région. Mais en même temps, elle ne peut pas se permettre de couper ses liens avec Paris parce que, comme vous l'avez dit, la Nouvelle-Calédonie joue un rôle essentiel sur le plan stratégique. Mais nous, ça nous interpelle aussi, nous, Français, parce que nous devons tout faire pour faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie reste française. C'est une région qui est stratégique pour nous et notre pouvoir politique doit s'impliquer considérablement pour faire en sorte que les Néo-Calédoniens sentent qu'ils sont attachés plus que jamais à la France.
Oui, parce que la Chine regarde d'un œil assez intéressé ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie.
Effectivement, parce que pour les Chinois, ce serait beaucoup plus simple de manipuler une Nouvelle-Calédonie indépendante que si elle reste française, auquel cas ça sera beaucoup plus compliqué de pousser les intérêts chinois en Nouvelle-Calédonie. Comme l'a montré le rapport de l'IRSEM publié très récemment, c'est la raison pour laquelle la Chine tente d'influencer en sous-main et soutenir les indépendantistes néo-calédoniens.
Jérémy Gallon, directeur Europe du cabinet de conseil en géopolitique McClarty Associates. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr ou encore mieux, abonnez-vous à Accent d'Europe sur vos plateformes de podcast. À demain.